Monsieur Raphaël Jacob est devant moi. C'est un plaisir de te retrouver, mon cher Raphaël.
C'est un grand plaisir, Paul.
Parce qu'on se voyait tous les après-midi, on se parle encore, on s'écrit encore. Et Raphaël a procédé officiellement au lancement de son ouvrage, vendredi, un ouvrage très bien fait qui paraît chez Robert Laffont, Révolution Trump.
La première chose à mentionner, je pense, là-dessus, Paul, c'est l'auteur de la préface du livre.
Non.
Qui se dénomme Paul Hood.
Oh! C'était très gentil que tu me le demandes, Raphaël. Je l'ai fait par amitié. Parce que, évidemment, si on s'écrit tous les jours, puis j'écris souvent à Valérie aussi, tous les jours presque, c'est parce que je m'intéresse beaucoup à ce grand pays, et non seulement à ce grand pays, mais qui vit une véritable révolution en ce moment.
Ben, écoute, non seulement en ce moment, mais lorsqu'on retourne 4-5 ans en arrière, qu'on recommence à la genèse essentiellement, le début de la première campagne présidentielle de Donald Trump, on voit à quel point non seulement le paysage politique, mais le paysage social du pays a changé. On n'avait jamais vu, on le prend pour acquis maintenant parce qu'on s'est un petit peu habitué, mais on n'avait jamais vu un candidat politique majeur faire campagne pour la Maison-Blanche de cette façon-là. Les discours fleuves qui peuvent durer une heure et demie, sans télésouffleurs, des milliers, pour pas dire des dizaines de milliers de personnes qui se ruent, qui font qui attendent pendant des heures, des fois une demi-journée juste pour pouvoir l'entendre parler. Tout l'aspect politique spectacle. Oui, on avait vu des politiciens plus charismatiques, plus spectaculaires, mais jamais un showman de la sorte. Ça, c'était la façon de faire campagne. Et ça, évidemment, c'est sans compter toutes les insultes personnelles, les attaques épouvantables pendant la campagne qu'on a vues du camp Trump. Et depuis son arrivée au pouvoir, la façon d'exercer justement le pouvoir. On a vu des présidents, tu le sais, tu connais l'histoire américaine très bien, Paul. On a vu toutes sortes de types de présidents. On n'en a jamais vu un qui passe près de ce qu'on observe présentement.
Et je disais que dans ton ouvrage, Raphaël Jacob, La Révolution Trump, tu as fait une espèce de rétrospective depuis le moment de l'élection, mais aussi après l'assermentation, la mise en place de ce gouvernement, cette porte ouverte que sont ses collaborateurs, c'est-à-dire que c'est une porte rotative, on entre, on sort, il dit les pires choses après les avoir congédiés, et tu tentes de replacer un certain discours cohérent, mais il ment tellement qu'on en est maintenant habitué. On reçoit de l'information, on dit « Ah non, le président a menti, c'est pas vrai, les faits ne sont pas là pour venir appuyer ce qu'il dit. »
Et ça aussi, on s'y est habitué. Et tu parles de l'espèce de feu roulant de collaborateurs qui rentrent, qui sortent, très souvent qui sortent parce qu'ils se sont fait congédier, disons-le clairement. Ça non plus, on n'a jamais vu ça de cette façon-là à la Maison-Blanche. Et dans le livre, il n'est pas seulement question du président. Il est question du président et de son entourage. Du fait que, oui, le personnage est surréel, mais les gens dont il a choisi de s'entourer le sont très souvent également. Des membres de son personnel qui, dans certains cas, on a presque oublié l'existence. Des gens comme Anthony Scaramucci, son premier directeur des communications, il y en a un petit peu question dans le livre. C'était impossible de croire qu'un type, qu'un clown comme ça, soit le directeur des communications de la Maison-Blanche. Mais tu les prends un par un, c'est hallucinant. Et encore une fois, on s'y est habitué parce qu'on est dans ce feu roulant-là quotidien. Donc, le but du livre, c'est un petit peu justement de recenser ça, de mettre en relief à quel point on vit une époque qui est anormale.
Mais le plus dangereux, oui, tu viens de le dire,
on s'est habitué à voir des personnages
dont on n'est pas trop sûr, qui sont là, puis on se dit, ben coudonc, c'est assez fascinant.
Et il est tellement devenu maintenant difficile de trancher entre l'irréel et le réel qu'on est confus.
Absolument, absolument. Donc, c'est un petit peu ça aussi, encore une fois, la mission du livre. Établir peut-être ce qui est vrai, ce qui l'est moins. Et aussi, en bonne partie, être capable de juger, à savoir qu'est-ce qui va lui survivre. Peut-être qu'il va faire encore un an, peut-être qu'il va en faire encore cinq à la Maison-Blanche.
D'ailleurs, ce livre, il est le compact. Parce qu'il faut essayer de comprendre pour voir ce qui va se passer. Nous ne faisons pas la lecture dans les tiges d'asperges.
Non.
Mais quoi que ça serait peut-être plus précis.
Paul, puis-je juste prendre un instant là-dessus? Parce qu'en chemin, je vous entendais. Et je dois te complimenter, te féliciter pour te dire que si j'avais été du tour de table tantôt, tu m'aurais eu.
Incroyable.
Jamais je n'aurais pu croire qu'il y avait, en 2020, des balado-diffusion pour chiens.
Oui.
Et des gens qui sont prêts à payer pour ça.
Oui, avec des spécialistes qui disent « pitou, pitou, pitou » toute la journée. Raphaël et moi, et Valérie Beaudoin également, on a compilé ensemble et on s'envoie de l'information. Mais je dois dire que je suis le gardien de ça. J'en suis très fier. La base de données des surnoms.
Oui.
Le président américain a comme principal outil, encore aujourd'hui, Twitter. Il est capable, en quelques centaines de caractères, d'être dur, agressif, vicieux, pervers, tout ce que vous pouvez imaginer.
Et drôle.
Et drôle.
Et drôle, de temps en temps.
Il donne des surnoms. Et il en donne tellement souvent que moi, j'ai commencé une base de données. Raphaël y contribue. Valérie, de temps en temps, lorsqu'elle entend quelque chose. Et je suis rendu à des dizaines et des dizaines de personnalités qui ont des surnoms.
Pas seulement des politiciens. Oui, des politiciens, mais des journalistes. Et dans certains cas, des célébrités. Des gens comme Robert De Niro, comme Stormy Daniels, il faut le mentionner. Et dans le livre, donc, il y en a tellement que dans différentes sections du livre, par exemple, lorsqu'il y a un passage sur le Congrès, bien, on dresse un tableau des principaux surnoms donnés aux principaux acteurs du Congrès par le président et on explique les surnoms.
Le surnom qu'il emploie le plus souvent, c'est comme une obsession envers Mme Clinton. Oui. Hillary Clinton, c'est Crooked. Crooked qu'on pourrait traduire par corrompu.
Oui, ou crapule.
Il l'appelle directement Crooked.
Sans même utiliser son prénom à certains moments, c'est juste Crooked.
Et on sait exactement.
C'est le de qui?
Automatiquement, on sait que c'est Hillary Clinton.
Exactement.
C'est incroyable. Il a
Bernie Sanders, candidat à l'investiture démocrate, c'est Crazy Bernie.
Donc, oui. Bernie le cinglé. Et vous savez, ce qui est quand même génial dans un sens, certains vont dire extrêmement pervers, d'autres extrêmement habile, c'est que justement, il est un tel maître du branding. On se parle de révolution, là, en termes de branding, de communication et politique. Être capable de faire entrer dans la tête du public un surnom, un point tel, où on n'a même plus besoin d'utiliser le nom de la personne pour qu'on sache de qui il est question.
C'est la même chose pour son adversaire, enfin celui qui risque de l'affronter, on verra, à la présidentielle, Joe Biden.
Joe Biden.
Dont le surnom est?
Sleepy Joe.
Sleepy Joe.
Endormi Joe.
Oui, mais c'est impensable parce que vu de l'extérieur, je vous écoute, je trouve ça passionnant, mais vu de l'extérieur, on ne peut pas comprendre qu'un bonhomme comme ça, qui est vulgaire, qui attaque ses adversaires, qui dit n'importe quoi sur Twitter, demeure en poste.
Non seulement a été élu, mais demeure en poste. Quand on m'a approché pour ce projet-là, le but, c'est un petit peu d'expliquer aux gens, parce que la quantité de fois dans une année où je peux me faire demander « Mais comment ça se peut? Comment ça se peut? » Justement, il y en a des pistes de réponse là-dedans.
Et justement, des pistes de réponse, et ça presse, et le livre ne peut tomber à un meilleur moment. Tu as procédé, Raphaël Jacob, au lancement vendredi. Oui. Mardi s'ouvre officiellement le procès en destitution. C'est une opération dans l'histoire de l'Amérique, qui est très grave. Il y a seulement deux autres présidents qui ont dû faire face à des accusations, en fait, visant à les destituer de leur poste.
Et aucun des deux a eu à traverser ça en pleine campagne de réélection. Il y a ça aussi, là, c'est qu'on a ce moment extrêmement historique, extrêmement rare, qui est rendu encore plus historique et rare par le fait qu'en même temps, écoute, deux semaines plus tard, commencent les caucus de l'Iowa en vue des primaires démocrates. Donc, le président est en campagne de réélection. Ses adversaires sont en train de se choisir un candidat pour lui faire face en novembre prochain. Et en même temps, il entame un procès pour sa destitution. À quelle époque est-ce qu'on vit? À quelle époque est-ce qu'on vit?
Il n'arrête pas de surprendre. Ce matin, avec Valérie Beaudoin, on a fait entendre un extrait de CNN. Est-ce qu'on l'a encore, l'extrait de CNN? Je ne pense pas. Il recevait, il faisait une levée de fonds à sa luxueuse résidence de Mar-a-Lago, en Floride. Et il a raconté, de façon si banale, un incident quand même qui aurait pu...
Important.
Qui a eu des conséquences. Il y a eu les missiles qui ont été tirés par l'Iran. Il y a eu cet avion qui a été abattu par la suite. Comment sont morts les deux personnages importants, dont Soleimani? Et il racontait ça comme si c'était une partie de golf ou une partie de pêche.
Une anecdote, c'est comme une anecdote. Oui. Ce sont des histoires, des tragédies internationales, et ça devient des anecdotes.
Est-ce que tu es encore étonné, Raphaël?
Ben, écoute, j'ai goût de te renvoyer la question, Paul. On s'écrit tellement souvent, est-ce qu'on est encore étonné? À certains moments, je te dirais oui. En même temps, c'est vrai que moi-même, je me suis habitué, mais il y a des épisodes, parce que je pense qu'on peut les appeler comme ça, là. On est tellement dans un espèce d'atmosphère de télé-réalité qu'on peut appeler ça des épisodes, donc qui sont quand même surprenants parce qu'on n'en revient pas que ça émane de la Maison-Blanche. Mais c'est vrai qu'en même temps, il y en a tellement que dans certains cas, même on les a oubliés. Et il y a certaines personnes qui ont lu le livre qui m'ont dit « Écoute, il y a plein d'affaires là-dedans et je suis ça tous les jours que j'avais oublié parce qu'il y en a tellement. »
Eh oui, on va écouter d'ailleurs M. Trump raconter comment ça s'est passé.
« I live Approximately 1 minute to live, sir. 30 seconds. 10, 9, 8. Then all of a sudden, boom. Hang on, sir. Cutting off. I said, where is this guy? That was the last I heard from.
Il raconte ça.
Ça se peut pas.
Et il a ajouté, nous ne l'avons pas, l'extrait. On a eu deux pour le prix d'un.
Ouais.
Ça va laisser, très certainement, peu importe qu'il soit réélu ou non, je mettrai un vieux deux canadien, et pas américain, un vieux deux canadien qui va être réélu.
Ouais.
Je dis ça de même. Non seulement ça, c'est que ça va laisser une trace sur les relations diplomatiques, le protocole, l'éthique
quel
et
protocole?
Tout.
Mais
c'est ce que
c'est
je
comme
dis.
Si le protocole
n'existe plus.
Existé,
ça n'existe plus. Non, ça... On fait sauter les barrières.
Absolument.
Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Je suis absolument d'accord avec ça. Une des questions, et là-dessus, je pense qu'il n'y a personne qui a de réponse, c'est de savoir est-ce qu'un futur président, un autre président, va pouvoir émuler, va pouvoir copier, va pouvoir emprunter à ce style-là? Est-ce qu'il va avoir changé la donne, notamment au niveau diplomatique?
Est-ce que c'est possible d'avoir un président comme on a eu? Est-ce que c'est possible pour les États-Unis, par exemple, d'avoir un président comme ils en ont eu avant?
Je veux dire normal.
Avec un protocole. Avec ses défauts et tout, mais conventionnel, avec un protocole à suivre, avec...
Je pense que oui. En même temps, je pense que pour bien des gens, disons-le franchement, particulièrement nous dans les médias, un président de la sorte va être beige, pas à peu près. Hey. On va avoir l'impression souvent qu'on est revenu dans la platitude, alors qu'on va être revenu dans la normalité.
N'est-ce pas d'ailleurs le principal problème des démocrates? Ils vont devoir désigner un homme ou une femme pour affronter Donald Trump.
Sleepy Joe.
Peut-être, mais ça peut être Elizabeth Warren, oui. Peut-être.
Surnommée affectueusement. Pocahontas, d'ailleurs.
Pocahontas, parce qu'elle avait fait...
C'était incroyable.
Elle avait dit qu'elle avait des racines amérindiennes.
Alors qu'elle est blonde aux yeux bleus.
Exact. Et il l'a surnommée Pocahontas. Il n'y a rien qui tient. Il a retweeté une photo de Mme Nancy Pelosi, qui est la leader à la Chambre des représentants, démocrate, bien sûr, et qui est responsable de la mise en place du dossier pour le destituer, et portant un voile.
Devant un drapeau de l'Iran.
Devant un drapeau de l'Iran.
Flanqué d'un sénateur démocrate qui, lui, avait un turban. Évidemment, le tout est un photomontage du Photoshop, mais ça vient du compte du président des
États-Unis. Et là, Raphaël, souvent, on s'écrit à 9h le matin. Il dit, as-tu vu, on l'appelle POTUS.
Oui.
Parce que POTUS, c'est le President nom. Of the US, hein, c'est son...
C'est ça, l'acronyme.
Et là, il est 9h15. Et là, soit que Raphaël m'écrit, Valérie embarque des fois, et puis on s'écrit en disant, as-tu vu ce qu'il a tweeté ce matin? Et Raphaël et moi et Valérie, on dit, hey, il était quelle heure quand il a écrit ça?
Très, très tôt.
Cet homme ne dort pas non plus.
Il dort excessivement peu. Et on le prend, c'est aussi pour acquis. Mais il a maintenant 73 ans, si je ne m'abuse.
Oui, mais il a dit qu'il avait la meilleure santé.
Oui, il est toujours le meilleur au monde. C'est le meilleur au monde.
Ouais, mais il reste que pour un homme de 73 ans, dormir comme il semble le faire, des fois des 3-4 heures, manger de la malbouffe comme il semble le faire, et avoir un des emplois les plus stressants de l'histoire de l'humanité, possiblement.
Et ça n'a pas l'air de le stresser, Raphaël.
Non, effectivement. C'est ça. Bon, Nick n'a pas l'air stressé.
Non,
le secret, c'est que n'importe quel... Nous serions envahis cette semaine par des extraterrestres, comme dans Independence Day. On dirait la Terre est menacée. Et lui, il traiterait ça comme si c'était un dessin animé ou, comme je disais tout à l'heure, une conversation anodine pendant une partie de golf.
Absolument. Et là-dessus aussi, on s'habituerait probablement à sa réaction et à son comportement dans ce dossier-là comme dans tous les autres.
Il fait référence des fois à des chefs d'État comme étant « he's a nice guy ».
Oui.
C'est un bon gars.
C'est un bon gars.
Et, oui. Et très souvent après, les insultes.
Oui. Ça commence ça toujours aussi par des qualités, mais...
Et les surnoms.
Oui. Et les surnoms.
Et pendant les négociations, ça se gâche.
Oui, exact. Et après ça, quand finalement on a signé, ben là, ça redevient des chic-tits.
Comment on peut accepter, par exemple, qu'il parle d'Hillary Clinton?
Crooked.
Comment on peut accepter? Comment c'est arrivé chez nous pour qu'on puisse finir par lire ses tweets et dire, il parle d'Hillary? Ben, puis ça devient comme une normalité. Moi, c'est ça qui me jette par terre.
Ben, en un mot, Thérèse, je dirais la répétition. C'est la répétition. Écoute, il est tellement omniprésent dans les médias et il est tellement actif, que ça soit sur les médias sociaux, que ça soit en rallye électoral, on le
peut
prend
plus
pour
contrer
acquis.
Ça. Non,
ben, c'est difficile.
Dans un langage familier. Mais là, je fais pas de comparaison. Je fais juste dire le langage de tous les jours. On a eu le premier ministre Jean Chrétien qui aimait dans des rassemblements
être coloré.
Mais Jean Chrétien a toujours respecté le protocole, l'éthique internationale, n'a jamais fait référence à, je sais pas moi, le président français comme étant un maudit bon gars. Mais on n'était pas loin. Mais ça va tellement plus loin. Parce que c'est vraiment comme ça qu'il traite à l'échelle internationale. Rappelez-vous quand il y avait reçu le premier ministre japonais, je crois.
Oui, Shinzo Abe.
Shinzo Abe, et il avait tiré un missile en guise de représailles. Enfin, les Américains avaient tiré un missile. Et il avait dit que la chose la plus importante ce soir-là, c'était l'excellent gâteau au chocolat.
Le formidable, en fait. Oui. C'est avec le président chinois, Paul.
Ah, chinois, Xi Jinping.
Oui, exact. Et il avait reçu, là aussi, à Mar-a-Lago, sa résidence de Floride. Et après, ce qui avait coulé, c'est qu'il vit en chuchotant à l'oreille du président chinois qu'il venait de... En fait, lâcher une des plus grosses bombes sur la Syrie, et qu'il avait aussi mangé un des plus excellents, des plus extraordinaires morceaux de gâteau au chocolat.
De gâteau au chocolat, la mère de toutes les bombes
oui.
qui avaient été lancées, et il glisse à l'oreille directement de celui qui disait « He's a nice guy
».
C'est un bon gars. Il lui glisse à l'oreille, soit dit en passant, on vient de lâcher ce qu'on appelle la mère de toutes les bombes, et je suis content que vous appréciez ce merveilleux, formidable gâteau. C'est dans le livre, à lire, ça se lit, et vous n'en reviendrez pas parce que vous avez probablement oublié, comme moi, ça peut arriver, 75-80% de tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, au cours des dernières années.
Juste l'affaire
années.
De Stormy Daniels, on a l'impression
oui.
que ça fait
oui.
20 ans.
Des décennies.
T'sais, on
absolument.
A l'impression que ça fait 20 ans.
Dont le surnom a été Bouche de cheval.
Oui, Horse Face. Face de cheval, en face. Fait, techniquement, ah. pour être littéral. Ah. Mais vous allez rire, je tiens à le mentionner, Paul, avant de finir, vous allez rire. Ce n'est pas lourd comme lecture, ça se veut pratiquement comme un roman, parce qu'encore une fois, ce à quoi on assiste, une télé-réalité, presque plus qu'une présidence, et vous n'avez pas besoin d'être un crack de politique américaine, c'est fait
c'est
pour
pas...
les initiés et les non-initiés.
Et pas toujours parce qu'on rit que c'est drôle.
Non, ouais, en non, effet, Thérèse.
Mais,
en effet.
Bien dit, Thérèse. Raphaël, en tout cas, c'était un honneur pour moi, parce que, comme je dis, je l'ai fait vraiment par amitié, mais aussi on a les mêmes intérêts. Et Raphaël sera ce soir invité à Tout le monde en parle.
En effet, dans l'avant-dernier bloc de l'émission, je le mentionne, je ne serai pas seul, je vais t'accompagner de Thomas Junot, qui est professeur à l'Université d'Ottawa. On va parler, oui, un petit peu du livre, mais aussi beaucoup de la situation entre les États-Unis et l'Iran.
Raphaël Jacob, Révolution Trump, livre qui paraît chez Robert Laffont.